franceinter.com.
Bonjour Claire Servajan. Eh bien, un animal politique longtemps à la conquête de la France. Je veux parler bien sûr du loup.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'homme et le loup, un long face à face. Qui, avec ses dents carnassières, dévore plusieurs kilos de viande par jour, mais se nourrit avec ses pieds? Qui, dans nos contrées, a généralement le poil gris, mais est représenté plus souvent qu'à son tour en noir? Qui ne cesse de diviser les hommes? Hier, ceux qui le combattaient, mais avec des méthodes divergentes. Et aujourd'hui, d'un côté, les éthologues, qu'il classe dans le patrimoine mondial de la diversité, et de l'autre, les historiens qui racontent la guerre que l'humanité mena contre lui. Qui donc? Eh bien, tendez l'oreille.
Dans le temps, les couvreurs du pays avaient l'habitude de placer dans les toits une tuile particulière, avec une sorte de sifflet. Et cette tuile est mise de telle sorte qu'elle ronfle quand le vent souffle des grandes failles. C'est le vent du Grand Nord. C'est signe que là-haut dans la montagne, la vue n'est pas tenable. Et quand là-haut la vue n'est pas tenable, là-bas, les loups descendent.
La tuile à loup, c'est le titre d'un beau téléfilm de Jacques Herto qu'on entendra à plusieurs reprises ce jour. Un film qui date de 72. La tuile à loup siffle et le loup commence à hurler. Et quand le loup commence à hurler, il se rassemble avec les autres loups. Il forme meute. Jean-Marc Borisseau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de publier, pour étudier 2000 ans d'histoire chez Fayard, une somme, l'homme contre le loup. Et vous êtes organisé en meute.
Tout à fait, parce que cette histoire qui commence déjà depuis une dizaine d'années a aimanté autour d'elle d'autres historiens, des géographes, des sociologues, mais également des biologistes et des médecins, en particulier autour du pôle rural de l'université de Caen, qui a travaillé à travers des colloques, des journées d'études et divers ouvrages sur la question.
À la vidéothèque du quel pôle rural, je recommande d'insérer la tuile à loup encore.
Un bon mâle, ça va chercher dans les 60 kilos. Et oui, 80 cm au garrot, par un.
Ça ressemble à un gros chien, quoi.
Non, c'est surtout ses yeux. Ses yeux jaunes, fendus en travers. Quand on en a vu une fois, on n'oublie pas.
Et mon grand-père disait que les loups attaquent presque toujours de côté. Et que même lorsqu'ils attaquent de dos, ils font claquer leur mâchoire avant. Ça prévient. Il disait aussi que les loups reculent sous le plomb, même de loin. Mais qu'une fois blessés, il fallait les achever parce que c'est les blessés les plus mauvais.
Une sorte de gros chien, les éthologues, les ethnozoologues, disent que les chiens sont les fils du loup. Vous vous dites que le chien est l'ennemi juré du loup.
Ah, tout à fait. Quand dans un même espace, on trouve des chiens, qu'il s'agisse de chiens de compagnie ou de chiens errants, ils font la pâture première du loup, hein, qui est vraiment son ennemi juré.
Alors, les éthologues, j'ai cité l'excellente Geneviève Carbone, je dis excellente pour vous provoquer, Jean-Marc Morisseau, disent aussi que l'abondance et la récurrence, je la cite, des récits historiques, conduit à penser qu'il y a vraiment des preuves de l'agressivité du loup contre l'homme. Mais dès le milieu du 19e siècle, ajoute-t-elle, les naturalistes commençaient à considérer que rares étaient les loups qui se repaissait de chair humaine.
En fait, il faut faire très attention, parce que jusqu'au début du XXe siècle, les naturalistes qui connaissaient bien le loup savaient bien que c'était un animal sauvage, qui était un ennemi du bétail, évidemment, et occasionnellement, dans des circonstances particulières, pouvait s'attaquer à l'homme. Raymond Rollina, par exemple, qui était correspondant du Muséum d'histoire naturelle en 1929, avait fait une enquête sur ces loups qui avaient attaqué l'homme, loup prédateur ou loup enragé. Ce n'est qu'à partir des années 1930-40, quand les loups ont déserté le territoire français parce qu'exterminés, qu'une image positive du loup s'installe en France, venue surtout d'ailleurs d'Amérique, et relayée par des biologistes qui effectivement savent bien qu'en général, le loup a peur de l'homme et ne l'attaque pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des occasions conflictuelles ailleurs qu'en France et qu'il n'y en a pas eu dans l'histoire.
Les mêmes éthologues qui sont peut-être un peu panthéistes beaucoup de dieux dans la nature, plus que chrétiens, la maîtrise de l'homme sur la nature, vous explique que, avant ces 2000 ans, avant la Bible, les occurrences nombreuses du loup dans la Bible, les rapports de cohabitation étaient bien meilleurs.
Alors c'est tout à fait faux, on vit sur une image convenue, voulant que le loup soit devenu méchant à partir du moment où l'Église en est fait, en quelque sorte, l'image du diable. Or, quand les romanistes ou les hellénistes travaillent sur l'Antiquité, ils rencontrent des images, des récits et des témoignages de loups dangereux beaucoup plus importantes qu'on pouvait l'imaginer. Par exemple, il faut savoir que c'est Solon qui, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, instaure des primes pour abattre le loup à cause du danger qu'il représentait pour l'élevage. Des monnaies gauloises montrent des louves qui dévorent des enfants. Des stèles romaines au IIIe et IVe siècle font de même. Et il y a des récits de prodiges, comme on dit sous l'Antiquité, qui montrent qu'à une trentaine de fois au moins, les villes romaines ou les camps romains ont été envahis par des loups qui ont causé des ravages. Si on ajoute les agronomes romains, les agronomes latins et grecs qui montrent qu'il faut absolument se protéger du loup, on voit que l'image qu'on avait de l'Antiquité avec Rémus et Romulus, elle est en grande partie fallacieuse.
Je sens agressif.
Mais parce que l'historien est là pour essayer de restituer la vérité du passé et de la contextualiser et surtout de lutter contre les clichés.
D'ailleurs, lutte contre les clichés, il arrivait que le loup puisse avoir une image positive dans le christianisme. Tenez, ce film que vous citez dans votre livre, Le miracle des loups, deuxième édition, il y en a eu une première en 24, celle-ci, c'est l'édition de 1961. La comtesse va être sauvée, un peu grâce au loup.
Les loups se sont avancés sur moi, Éminence. Je suis tombée à genoux dans la neige et j'ai prié la Vierge. Alors les loups ne m'ont pas touchée. On eût dit au contraire qu'ils étaient venus là pour me protéger contre ceux qui en voulaient à ma vie. Et quand les meurtriers ont fui, les loups se sont couchés autour de moi. Et comme s'ils avaient compris que leur protection m'était désormais inutile, ils ont disparu lentement dans la forêt.
Alors là, on est au XVe siècle. C'est d'ailleurs une époque de haute tension. Vous pourriez peut-être nous dire quels ont été les moments où la présence, on parle que de la France aujourd'hui, du loup a été particulièrement menaçante et où ?
Alors, il y a eu des témoignages d'abord très rares au Moyen-Âge, au VIe siècle, en 580, la ville de Poitiers est par exemple envahie par un loup. En 1033, pendant la Grande Famine, Raoul Glaber évoque des ravages de loups. Mais il faut attendre en fait la période de la guerre de Cent Ans pour que les témoignages se multiplient. Et incontestablement, entre 1410 et 1460, à la fin de la guerre de Cent Ans, une quinzaine de provinces françaises connaissent des ravages de loups sur le bétail et sur l'homme qui motivent des destructions importantes. Il faut voir qu'à cette époque, les loups sont entrés 4 fois à Paris, par exemple. Il y a une autre époque où les loups ont représenté un fléau important, c'est la seconde moitié du XVIe siècle, et surtout entre 1580 et 1610. C'est l'époque où Henri IV, par exemple, instaure un édit de chasse qui impose faire des huées aux loups et des battues tous les 3 mois. Et puis, il y a une dernière époque très importante, c'est la fin du règne de Louis XIV. Entre 1690 et 1715, il y a eu des années où il y a eu des centaines d'enfants dévorés par les loups, à l'époque même où Perrault écrit justement ses contes de la Merlois, Le Petit Pousset ou Le Petit Chaperon Rouge, qui trouvait effectivement à cette époque des réalités qui favorisaient son lectorat.
Dans quel espace le loup a ces périodes de haute tension? On imagine que ce n'est pas seulement dans les montagnes comme aujourd'hui. Le loup s'adapte particulièrement bien aux collines, dites-vous.
Oui, aux collines, aux plaines et même quelquefois aux portes des villes, puisque le loup est un animal ubiquiste qui va partout, des Landes du Finistère jusqu'aux Rides alsaciens, depuis les dunes du nord de la France jusqu'aux Alberts, le loup était partout, à la différence de l'ours, et surtout là où il y avait l'homme et ses activités, c'est-à-dire sur les plateaux, dans les plaines, bien entendu, dans les régions fortement peuplées, à habitats dispersés, c'est là qu'on rencontrait très souvent Canis lupus.
Alors, sous Louis XIV, il y a 2 méthodes. Colbert en avait inventé une qui n'a pas pu être expérimentée. Ça aurait débarrassé le Finistère de pas mal de loups.
Oui, c'est vrai. Enfin, dans les cartons du ministère, on conserve le projet un peu fou de faire passer la Manche aux loups à fond de cale pour aller submerger un peu l'Angleterre qui s'était débarrassée de ses loups entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle. Or, Colbert ne dormait pas beaucoup la nuit parce que son petit frère, qui était ambassadeur à Londres, lui disait que la laine anglaise se vendait beaucoup mieux sur les marchés européens parce qu'en Angleterre, qui n'avait plus de loups, les moutons couchaient à l'air libre, alors que ce n'était pas le cas en France.
plus raisonnable était la chasse telle que la menait le grand dauphin, qui était un fou de loup.
Oui. Alors aujourd'hui, il irait en prison, certainement très vite, avec un flot, une flopée d'amendes. Mais il était considéré comme un sauveur de l'humanité à une époque où les loups attaquaient quand même beaucoup les particuliers autour de Paris et de Versailles. Il faut bien voir que quand Louis XIV installe sa cour à Versailles, il y a quand même 190 morts à cause des loups et 200 à 300 blessés, dont les curés lui font la liste quand il célèbre la naissance de son petit-fils. Et heureusement, Louis XIV avait un fils, le grand dauphin, un maniaque de la chasse à loups. Il a fait plus de 1022 campagnes à loups autour de Paris. On peut les cartographier et ça montre quand même que tout près de la capitale, encore au XVIIe siècle, le loup était un animal très important.
Enfin, si vous dites que les maniaques de la chasse, heureusement qu'ils existent, je vous mets à l'amende. Quand sous le règne de Louis XV, 1764, la bête du Gévaudan terrorise, le loup a déjà reculé, mais il est toujours aussi intolérable, même s'il ne règne plus que sur des poches assez isolées de la France des Lumières.
La taille d'un gros taureau, une crête sur le dos, une queue hérissée d'épines, 53 dents. Avez-vous déjà rencontré un tel monstre, Buffon ?
Je suis convaincu que ce monstre n'existe pas, sire.
Les monstres n'existent pas, ni celui-ci, ni un autre. C'est un vrai chasseur qu'il nous faut.
Porte arquebuse Beauterne, louvetier du roi.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Qui ne se prend pas pour un grand louvetier. Le grand louvetier siège à la cour. C'est un grand seigneur, Jean-Marc Morisseau.
Oui, parce que la louveterie est une institution puissante dont l'origine prétend remonter à Charlemagne, qui par un capitulaire a établi deux louvetiers dans toutes les circonscriptions de l'Empire pour chasser les loups, sans savoir qu'avant lui, à l'époque romaine déjà, au 1er siècle, dans les grands domaines romains, il y avait des loups paris, ancêtres de ces louvetiers. Toujours est-il qu'à la fin du Moyen-Âge, on a un grand louvetier, c'est Louis XI qui établit justement le grand louvetier, qui est à la tête d'une institution rivalisée par les eaux et forêts, avec des affrontements perpétuels, et qui est spécialisée dans la chasse aux loups. Et c'est tout à fait étonnant, parce qu'après de nombreuses vicissitudes, cette institution existe toujours aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'à travers le territoire, plus ou moins bien dispersé, il y a des lieutenants de louveterie.
Tout à fait. Ils étaient d'abord nommés par le grand louvetier, puis ensuite par le grand veneur. Ensuite, c'est par les préfets avec l'aval de la direction des eaux et forêts et des conservations de chasse. Mais encore aujourd'hui, des lieutenants de louveterie, sous forme d'associations d'ailleurs, exercent bénévolement des fonctions institutionnelles.
Et ce sont souvent, dites-vous, des grands bourgeois terriens ou plutôt des aristocrates qui ont les moyens de maintenir des équipages. Donc à l'époque de la louveterie, si on revient à l'Ancien Régime, il faut bien considérer que le droit de tirer était limité. C'était un privilège de la noblesse.
Ah oui, alors là, c'est important parce que ça explique que le loup ait pu se propager en France pendant très longtemps. C'est que le droit de le tuer avec des armes à feu, ou des armes blanches d'ailleurs, était réservé à la noblesse ou aux privilégiés pendant très longtemps. Il était très très réglementé et il faut attendre la Révolution pour que ce droit s'élargisse et surtout le 19e siècle pour qu'avec des armes à feu puissantes, il puisse être véritablement opérationnel, mais avec des permis de chasse.
Mais l'Ancien Régime n'est pas si efficace que cela à cause de ce handicap, parce que si à la noblesse est réservé l'usage des armes, aux autres, qu'est-ce qui reste, aux pauvres bougres, l'ingéniosité?
Ils ont les pièges. Les communautés font des fosses à loups. Il y en a beaucoup qui peuvent être très dangereuses, puisque quelquefois, certains des membres de ces communautés tombent dans ces fosses à loups. Et il y a un tas, évidemment, d'histoires qui sont racontées sur le fait qu'elles rencontrent quelquefois un loup au bout de la fosse. Alors, selon, évidemment, le caractère du loup prétendu, eh bien, ça se passe bien ou ça se passe très mal. Et ça alimente, évidemment, le folklore de beaucoup de régions françaises. Mais en dehors des fosses, il y a des pièges terribles, des pièges à mâchoire, des traquenards, des hausse-pieds, qui ont donné des noms à loup pendu, à toute une série de toponymes qui marquent encore notre paysage actuellement.
Piège où le pauvre bougre peut tomber, comme quand il empoisonne le loup, il peut se retrouver lui-même empoisonné.
Ah oui, là, il faut faire quand même très attention. C'est surtout là le gibier, c'est-à-dire que le loup a fait l'objet de campagnes d'empoisonnement depuis le XVIIIe siècle avec la noix vomique, dont une substance concentrée qui s'appelle la strychnine a été largement répandue à la fin du XIXe siècle, mais pouvait entraîner, quand d'autres animaux la consommaient, la mort des chiens et la mort du bétail. C'était quelque chose de très dangereux, effectivement.
Même après la Révolution, la politique est trop incohérente pour être totalement efficace. La louveterie fée inouïe a été reconstituée par Napoléon. Et les louvetiers qui ont quand même le rôle dominant, on parlait des grands propriétariens, des aristocrates qui ont un équipage, ils sont un peu fascinés par le loup, ils ne veulent pas qu'il soit complètement éradiqué.
Oui, la louveterie au XIXe siècle incarne un petit peu une inégalité sociale très forte dans la France de l'époque. Les grands louvetiers qui doivent exercer leurs fonctions bénévolement doivent disposer évidemment de meutes de chasse et pouvoir les entretenir, ce qui coûte très cher. Et ils ne sont pas payés pour cela. Donc ce sont des fonctions honorifiques réservées à l'aristocratie, qui d'ailleurs y trouve d'ailleurs aussi un emblème identitaire de l'Ancien Régime. Et ils cherchent à préserver, par les louves en tout cas, un peu l'espèce pendant très longtemps, alors que la population rurale, elle, ne cherche qu'à éradiquer, évidemment, l'animal qui s'en prend à ses troupeaux, qui s'en prend à l'élevage. Il y a des conflits particulièrement violents entre certains de ces aristocrates et les chasseurs populaires du loup au cours du XIXe siècle.
Enfin, la Troisième République vint, Jean-Marc Morisseau.
Oui, alors elle le fait que parachever vraiment une œuvre de destruction qui commence vraiment dès 1817, hein, dès l'ordonnance l'aînée sous la Restauration.
Mais enfin, comme elle établit le paquet sur les primes.
Oui, voilà. Comme elle établit un système de primes extrêmement incitatif, en multipliant par 4 ou 5 le montant des primes, il est évident qu'elle donne un coup d'accélérateur à cette opération d'éradication des loups qui avait commencé plusieurs décennies avant elle.
Les chasseurs de primes, parce que maintenant les primes deviennent importantes, peuvent appartenir à tous les États, tous les sexes, jusqu'aux grands-mères et aux hommes en soutane.
Eh bien, bravo, monsieur le curé, vous l'avez pas loupé.
C'est sûrement la femelle de celui d'hier. Elle était là au même endroit. Elle m'a regardé avec des yeux. J'ai hésité à tirer.
Ben heureusement que vous n'avez pas hésité trop longtemps. Ben regardez-moi ça. Elle n'allait pas de pleine nassant. Et pas du sien. Faudrait faire le tour du pays pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Hein. Mmh. Vous venez avec moi?
Ouais.
Ça va faire 50 francs pour vos heures, ça.
Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Pauvre loup.
Écoutez la complainte d'un loup qui vit l'enfer, et débarrassez-moi vite de cette grand-mère. Je suis prêt à tout, à ramper, à me tordre, mais je vous en prie qu'elle cesse de me mordre.
Pauvre loup, pauvre loup.
Alain Bachung. Oui, les grands-mères peuvent toucher des primes aussi.
Tout à fait, l'éventail social est entièrement ouvert pour toucher la prime au loup depuis l'Ancien Régime. Et on a notamment des compléments de revenus qui assure la subsistance de la sauvageotte, par exemple, en Bourgogne.
Vous faites le portrait entre de la sauvageotte 1800, en Bourgogne.
Oui, entre 1840 et 1850 à peu près, une veuve de bûcheron avait ainsi réussi à assurer son ordinaire en allant dénicher les portées de louveteaux régulièrement et à les amener évidemment à l'administration pour toucher la prime au loup. Et elle sillonnait ainsi les forêts du département de la Nièvre et de la Saône-et-Loire selon les périodes de l'année, en ayant repéré toujours régulièrement les portées de louveteaux.
Alors évidemment, vous avez des interprétations d'abord politiques. Jean-Marc Morisseau, on pourrait quand même donner des interprétations techniques. C'est parce que l'efficacité des armes à feu a progressé, que le territoire maintenant est parcouru de voies de chemin de fer, de routes plus nombreuses. Le loup, au XIXe siècle, se voit freiné dans sa progression.
Oui, alors, il y a des interprétations aussi je dirais, géostratégique qui explique que le loup a disparu au XIXe siècle. Pendant longtemps, c'était un fléau secondaire quand il y avait la peste, des famines, des épidémies effrayantes qui faisaient des milliers de fois plus de morts que lui. Le loup était considéré comme un mal secondaire dont on s'est accommodé, même s'il terrorisait les populations. En revanche, quand les grandes famines ont disparu, que les épidémies se sont réduites, au XIXe siècle en particulier, ce fléau est passé au premier plan. Et c'est pour cela que l'administration a mis le paquet, en quelque sorte, en organisant une véritable politique de destruction par tous les moyens, les pièges, les poisons, les primes et la louveterie.
Heureusement, écrit Geneviève Carbonne, l'éthologue, toujours le combat de l'historien et de l'éthologue, une nouvelle ère d'expansion commence pour cette espèce faiblement dangereuse. Alors, milieu 20e siècle en France, éradication du loup. Et puis, c'est le bon terme que j'emploie, vous n'allez pas me mettre à l'amende, réimplantation du loup à la fin du 20e siècle.
Ah non, je dirais que c'est un retour naturel. Encore qu'on n'en ait pas les preuves absolues, mais tout semble bien le montrer, il n'y a pas réintroduction du loup. Le loup est revenu naturellement depuis l'Italie, étant donné la protection à dont il fait l'objet.
Alors, l'Italie,
depuis la Convention de Berne.
Vous racontez qu'au fond, autrefois, c'était la France qui assurait pas mal le renouvellement des populations des loups dans les pays voisins. Maintenant, c'est l'Italie. 76, l'Italie déclare le loup espèce à protéger.
Mais c'est-à-dire que l'Italie applique la Convention de Berne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de braconnage. Il y a quand même beaucoup de braconnage. Mais malgré tout, le loup fait l'objet d'un statut protecteur. Il était concentré dans l'Apennin. Et sa population augmentant dépasse évidemment les possibilités de subsistance que l'Apennin lui offre. Et tout naturellement, c'était prévu depuis longtemps, elle s'étend vers le nord.
Tout
elle devait passer un jour.
Elle passe la frontière.
Des Alpes. On a eu plusieurs loups tués, d'ailleurs, venant
93.
De l'Apennin avant 92. Et à partir de 92, effectivement, le loup arrive par le Mercantour en France, colonise 3, puis 5, puis 8, puis 15 départements français, allant même jusqu'à l'Espagne.
On va prendre un exemple, c'est celui de l'Isère, là où les dernières battues, peut-être, ont eu lieu au milieu du XXe siècle. Le massif de Belledonne, donc en Isère, à la limite de la Savoie, au-dessus d'Alvar, dans une vallée chère à votre ami, le grand historien de la ruralité, Emmanuel Leroy-Ladurie, le loup est devenu un sujet politique à mesure qu'il a menacé l'économie pastorale, provoquant chez les bergers, jusque chez les enfants, toute une gradation de réactions.
Je ne suis pas pour les armes, mais j'élève pas les animaux pour qu'ils soient égorgés par un loup. Et puis on me confie des brebis pour que je les ramène saines et puis bien portantes et bien nourries. C'est pas pour les faire égorger par un loup. Et donc je défends le cheptel qui m'est confié. Mais c'est complètement illicite et j'en suis conscient.
Touche pas à mon berger. Alvar, mon beau pays, ne te laisse pas berner. Ton histoire est inscrite au pied du grand charnier. Rappelle-toi, petit, il y avait des bergers. Maintenant, ils sont partis. Le loup les a chassés. Les écolos, déçus, se sont manifestés. Les politiques sont venus. Ils n'ont rien décidé. Devant brebis sanglantes, ils fuirent horrifiés. Pour sauver 3 sapins et gagner 4 sous, on oublie la nature et on sème du loup. Rappelle-toi, petit, il y avait des bergers. Le loup les a chassés.
Ça, c'est un truc qui rassure bien les brebis, qui me rassure moi parce que je vois tout ce qui se passe. Hein. Vous voyez le bruit que ça fait. Hein. Quand on est fatigué et qu'on le met en marche, on ne peut pas dormir. Quand on l'arrête, on a tellement peur d'être attaqué. Hein. On veille, on ne dort même pas. Alors voilà. Si le loup il arrive, on se prépare. Pour faire feu. Hein. Il y a 3 carabines, hein, de la chevrotine, hein, et puis après la 764, hein, de la 765 et de la 300. Voilà la nuit.
Reportage de Raphaël Kraft à la limite de l'Isère et de la Savoie.
Ah, le loup pose d'évidents problèmes au secteur du pastoralisme. Il ne faut absolument pas le nier. Ce secteur est frappé de plein fouet par l'arrivée naturelle du loup, dans la mesure où, depuis près d'un siècle, le canidé sauvage n'existait plus en France et l'élevage avait pu se développer à l'air libre, un élevage extensif, en particulier dans les alpages. Et là, l'arrivée du loup remet tout en cause. La condition des éleveurs et des bergers, bien entendu, leurs revenus, le sens de leur vie. Et ce n'est pas qu'à coup d'indemnité ou bien à coup de dédommagement de bêtes tuées que l'État et la population française peut se dédouaner en quelque sorte de sa responsabilité à l'égard de la protection d'un animal sauvage. Car cela a des conséquences évidentes qu'il faut pouvoir mesurer. Et je pense que des états généraux du loup devraient pouvoir s'instituer afin de pouvoir vraiment, en toute sérénité, établir des compromis indispensables.
Attendez, il y a déjà une commission d'enquête parlementaire avec M. Estrosi, des dispositions qui ont été prises. On a le droit de tirer, les préfets peuvent en donner la permission une demi-douzaine de loups peut-être cette saison dans l'arc alpin français.
Oui, il y a 6 loups qui peuvent être régulés officiellement en quelque sorte entre juin 2011 et juin 2012. Mais je dirais que c'est une série de mesures ponctuelles, pragmatiques bien sûr, et c'est intéressant de ce point de vue-là, mais qui évacuent véritablement une discussion générale, un plan général de retour selon les régions qui tiennent compte des intérêts en présence. Tout se passe comme si en France, on cherchait de manière très prudente, en quelque sorte, à tolérer le retour naturel du loup, mais sans pour autant en prendre vraiment toutes les conséquences et sans en donner à l'opinion publique véritablement également toutes les manifestations. Et c'est
une partie dommageable. De l'opinion publique, Jean-Marc Morisseau, et c'est peut-être dommageable, ne considère-t-elle pas le loup comme le symbole de l'étranger ? C'est un bouc émissaire.
Oui, ben, l'opinion publique, elle est très partagée, parce que le loup, depuis 30 ans, représente l'idéal de la biodiversité, et après avoir été longtemps affublé de tous les défauts, il est maintenant quasiment angélisé. Il y a un retournement quasiment entier de son image, qui est d'ailleurs qui est évidemment excessif, ça va de soi. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand on parle d'opinion publique. Certains milieux écologistes, et à juste titre d'ailleurs, veulent défendre l'animal. D'autres qui sont liés au monde rural sont très conscients des dangers qu'il présente. Et entre les deux, l'opinion publique est souvent très partagée ou en tout cas elle est passionnée parce que le loup est un animal fascinant, mais sans se rendre compte des conséquences qu'il peut provoquer.
Le loup divise les hommes, c'est pour ça que vous l'étudiez. Et parmi les hommes, il divise d'un côté les éthologues et de l'autre les historiens.
Ah, le loup a eu cette capacité extraordinaire dans son histoire de diviser les hommes entre eux. Ça, c'est évident. Y compris ceux qui le chassaient, comme les louvetiers, les eaux et forêts. Il a aussi la vertu de diviser actuellement ceux qui parlent de lui. Ceux qui avaient en quelque sorte, non pas le monopole, mais disons le droit de parler de lui comme les éthologues et les biologistes, et ceux qui veulent intervenir aussi dans le débat comme les sociologues, les géographes et maintenant les historiens.
L'homme contre le loup, c'est une vaste synthèse, en partie collective, signée par Jean-Jacques Morisseau aux éditions Fayard. Sur notre site, on trouvera aussi mention de tous les travaux excellents des remarquables éthologues d'aujourd'hui. J'ai cité plus d'une fois Geneviève Carbone. Elle a l'avantage d'expliquer que le loup passe un tiers de son temps à se déplacer, un tiers de son temps à dormir. Et vous savez ce que fait le loup à l'approche de 14 heures ? Ah, vous voyez, mais pas assez éthologue. Mettez-vous dans la tête du loup, l'odorat et pas la vue pour lire. Eh bien, à l'approche de 14 heures, il dort le plus souvent. Rémi Quincé, Maxime Anna, Jacques Sigal à la réalisation et à la technique, et dans l'équipe de la Marche de l'Histoire, Camille Poux-Jalaguier, Franck Olivard, Frédéric Martin à 14 heures. Vente des papiers de Robespierre chez Sotheby's aujourd'hui, ce sera notre thème demain. Vous pensez que vos propos vont provoquer des commentaires ?
Sans doute.
Oui. Surtout la cause animale.
Ils sont écrits rapidement, ils sont prononcés rapidement, évidemment sans trop de nuances, comme il se doit dans ce type d'émission. Donc oui, je pense que ça va poser. Et pas uniquement chez vous, mais il y a des sites qui vont se créer, de toute façon, comme d'habitude, en dehors de France Inter, à partir de l'émission.
Eh bien, c'est formidable. Nous allons ainsi provoquer un chapelet de réactions que nos auditeurs sont invités à égrener. Il est 14 heures, vous êtes toujours sur France Inter.